Pour commencer, donc je vais vous demander de prendre le livret doré et on va lire un texte ensemble, un texte de Tsongkhapa qui explique comment réaliser la vacuité. Page 141. Ou 142, je ne sais pas. Moi c'est 142, mais c'est un PDF, je ne sais pas si c'est la même chose. Je vais le mettre en évidence. Comment ? C'est ça. Les trois principaux aspects. 141, d'accord. Donc, s'il y a un texte de Tsongkhapa que vous devez avoir, c'est celui-là. Si vous ne voulez pas en avoir d'autres, vous ne pouvez pas en avoir d'autres, une raison ou une autre, c'est celui-là qu'il faut avoir. Celui-là, parce qu'il résume donc les trois, voilà, les trois, ce qu'il faut vraiment développer sur la voie bouddhiste pour atteindre l'éveil.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Je ne sais pas si vous nous entendez à l'institut, mais nous on ne vous entend pas.
Ah, d'accord. Merci de le dire.
Merci Christian.
On t'entend en tout cas. Ouais,
on vous entend maintenant.
Oh, d'accord, très bien.
Merci.
C'est bien, avec plaisir.
Merci, oui, merci, ça y est, c'est bon.
C'est bon, là ? Oui, donc je disais qu'on va lire ensemble le texte de Tsongkhapa qui est indispensable, qui s'appelle « Les trois principaux aspects de la voie ». C'est un texte qui est souvent commenté, expliqué par Sassantel Dalai Lama, c'est un texte court, mais qui résume en quelques strophes comment progresser sur cette voie de l'éveil. Et quelles sont les trois choses indispensables qu'il nous faut avoir, ces trois choses étant le renoncement, la bodhicitta et la vue de la vacuité. Avec ces trois, c'est parfait. Alors, on y va. Peut-être que je... c'est bien indiqué. Vous avez des titres hein, aussi ? Voilà, parce que parfois, ils ne sont pas toujours. On a ajouté des titres pour mieux comprendre, pour séparer les strophes. Donc, on va les lire assez lentement. Hommage à mes maîtres parfaits. L'essence des enseignements des victorieux, la voie louée par tous les victorieux et leurs fils, la porte d'entrée pour les fortunés qui aspirent à la libération. Voilà ce que je vais m'efforcer d'exposer au mieux de mes capacités. Vous qui n'êtes point attaché au plaisir de l'existence cyclique, ou qui vous efforcez de donner un sens à votre existence disponible et qualifiée, qui vous en remettez à la voix qui réjouit les victorieux, aux fortunés, l'esprit paisible, écoutez. Pourquoi cultiver le renoncement ? Sans une intention totale de s'affranchir définitivement du samsara, il est impossible de pacifier l'attachement en quête de résultats dans l'océan du samsara. De plus, la soif pour l'existence cyclique enchaîne continuellement les êtres incarnés. Aussi, en tout premier lieu, cultiver le renoncement. Comment cultiver le renoncement ? Les libertés et richesses de cette existence sont difficiles à trouver. La vie s'écoule, le temps ne peut attendre. Par la familiarisation avec ses pensées, l'attrait pour les apparences de cette vie se dissipe. Par une réflexion maintes fois renouvelée sur l'infaillibilité des actions et de leurs effets, et par la contemplation continue des malheurs de l'existence cyclique, l'attrait pour les apparences des vies futures se dissipe. Donc, comment est-ce qu'on sait qu'on a réalisé le renoncement ? La mesure de la réalisation du renoncement. Lorsque, grâce à cette pratique, ne survient plus, même l'espace d'une seconde, le moindre attrait pour les merveilles de l'existence cyclique, et que l'aspiration à la libération s'élève de jour comme de nuit, alors la pensée du renoncement a été engendrée. Pourquoi cultiver l'esprit d'éveil ? Même si le renoncement a été développé, s'il n'est pas imprégné de l'esprit d'éveil, il ne peut servir de cause au bonheur suprême de l'éveil insurpassable. C'est pourquoi les sages cultivent le sublime esprit d'éveil. Emportés par le cours violent des quatre rivières, étroitement enchaînés par les liens difficiles à briser des actions, piégés dans le filet d'acier de la saisie du soi, plongés complètement dans l'obscurité totale de l'ignorance, ils renaissent encore et toujours dans le cycle des existences et sont pris dans la tourmente incessante des trois souffrances. Telle est la condition de tous les êtres nommés par cette contemplation, cultiver le sublime esprit d'éveil. En bref, si de même que pour la mère dont l'enfant chéri est tombé dans un brasier de flammes, une seule seconde de la souffrance qu'il endure est une éternité insoutenable, par votre réflexion sur la souffrance de tous les êtres nommés, vous ne pouvez supporter qu'elle dure une seconde de plus, et si votre souhait qui tend vers l'éveil pour leur bien s'élève sans effort, alors vous avez réalisé l'esprit d'éveil précieux et suprême. Pourquoi méditer sur la vue juste ? En l'absence de la sagesse qui réalise la réalité ultime, même si vous avez réalisé le renoncement et l'esprit d'éveil, vous ne pouvez trancher à la racine la cause du samsara. Aussi efforcez-vous à la méthode permettant de réaliser la production dépendante. Ceux qui voient comme à jamais infaillible la causalité de tous les phénomènes, de l'existence cyclique et de l'état au-delà de la souffrance, et pour qui toute saisie de l'existence réelle des objets a totalement disparu, celui-là est entré sur la voie qui réjouit les Bouddhas. Si l'apparence de la relation indépendance qui est infaillible est acceptée séparément de la vacuité, et tant qu'elles sont perçues comme distinctes, on n'a pas encore réalisé la pensée du Bouddha. Quand ces deux réalisations surviennent simultanément et non plus en alternance, et que de la simple vision de la relation en dépendance comme tout à fait infaillible, naît une ferme certitude qui détruit complètement la façon dont tous les objets sont appréhendés comme existants véritablement, alors l'analyse de la vue suprême est complète. En outre, la compréhension des apparences divines dissipe l'extrême d'existence intrinsèque et celle de la vacuité, l'extrême de la non-existence. Lorsque vous comprendrez comment la vacuité se manifeste à la manière des causes et des effets, vous ne serez plus fasciné par des notions erronées tenant des vues extrêmes. Ainsi, lorsque vous réalisez tels qu'ils sont les points essentiels des trois principaux aspects de la voie, retirez-vous dans la solitude et développez la force de l'effort et accomplissez rapidement votre aspiration profonde, mes enfants. Donc voilà ce texte de Tsongkhapa qui donne des instructions de pratique. Comment pratiquer le renoncement ? D'abord, pourquoi pratiquer le renoncement ? Comment pratiquer le renoncement ? Et comment on sait qu'on a réalisé le renoncement ? Même chose pour la bodhicitta. Pourquoi pratiquer la bodhicitta ? Comment on fait ? Quelle est la méthode ? Et comment on sait qu'on l'a réalisé ? Quel est le signe de sa réalisation ? Et pareil pour la vacuité. Pourquoi méditer sur la vacuité ? Comment on sait qu'on l'a... quelles sont les méthodes ? Donc la méthode qu'il donne ici, c'est celle qu'on verra donc, pendant le week-end, c'est de méditer aussi sur l'interdépendance. Quand interdépendance et vacuité sont exactement la même chose, et sont les méthodes qui vraiment permettent de ne pas tomber dans les extrêmes, dans les deux extrêmes. Mais avant d'arriver là, on a encore un peu de chemin à faire. Et voilà, donc comment on sait aussi comment on a réalisé la vue de la vacuité ? Il y a une indication, une strophe pour ça. Que l'on a réalisé la vue des prasangika, donc celle qu'on a commencé d'expliquer. Ensuite, je vais vous lire une petite motivation qui est faite par Lamazopa, donc Lamazopa, notre maître spirituel à l'Institut, et ailleurs, dans les centres FPMT. Donc, il nous dit que tous les problèmes que nous rencontrons dans le samsara, quels que soient ces problèmes que nous rencontrons dans le samsara, donc, qui est le cycle des renaissances, ont leur origine dans l'ignorance. L'ignorance qui saisit les choses comme si ces choses-là existaient de par elles-mêmes. Donc notre situation dans ce cycle des existences est comme quelqu'un qui serait prisonnier d'une maison, d'un building, d'un grand bâtiment avec de nombreuses pièces et de portes, qui serait prisonnier de ce bâtiment en flammes. Et il n'y a qu'une porte qui permet de sortir. Donc il faut trouver cette porte. Et nous, en fait, dans le samsara, eh bien, on tourne en rond, on est prisonnier de ce cercle, de cette maison. Et désespérément, donc, on court comme ça, d'une pièce à l'autre, pour essayer de trouver cette porte, cette issue de secours qui nous permettra de sortir du samsara. Et donc, cette issue de secours, c'est la vue de la vacuité. Donc, la porte qui continue, donc la porte qui nous fait sortir du samsara, c'est la sagesse qui réalise la vacuité, l'absence d'existence en soi. Donc cette sagesse est, alors c'est important, cette sagesse est l'antidote, le remède direct à l'ignorance. Hein. C'est-à-dire pour éliminer l'ignorance, il faut utiliser un antidote. L'ignorance étant une conscience erronée, son antidote, ça va être une conscience non erronée, qui perçoit les choses telles qu'elles sont. Donc c'est pas insurmontable, c'est pas infaisable. Il suffit que l'on ait la compréhension juste pour que, d'un coup, l'ignorance cesse. Hein. Donc l'ignorance étant une conscience erronée, il faut utiliser l'antidote qui est la conscience juste. Et c'est ça qu'il nous faut acquérir. Alors acquérir cette conscience juste, ça prend du temps. Hein. Ça demande des réflexions, ça demande de l'analyse, ça demande de la méditation. Donc, je reprends. Cette sagesse est le remède ou l'antidote direct à l'ignorance, qui est donc à la fois la cause et l'effet, hein, de la saisie du soi, hein, c'est-à-dire la croyance que le je, que le moi, le soi, appelez-le comme vous voulez, l'individu, l'individualité, a une existence indépendante, une existence inhérente à lui-même, existe de lui-même. Donc, il définit ce que c'est que la saisie du soi, hein, dont on parle. Cette saisie du soi, en fait, c'est, on dit le mot saisie, bon, saisie, ça fait un peu physique, peut-être c'est plus juste de dire une croyance, mais plus fort qu'une croyance qui est vraiment innée en nous, hein, ou une appréhension continuelle de l'existence véritable des choses. Hein. Donc, cette croyance continuelle de l'existence véritable des choses est une conscience erronée. C'est l'ignorance qu'il nous faut remplacer par une conscience juste qui voit que les choses n'existent pas de cette façon-là. Hein, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut développer. Cette conscience qui perçoit la réalité des phénomènes, qu'ils n'existent pas de façon intrinsèque. En d'autres termes, le je apparaît comme quelque chose qu'il n'est pas. Donc la méditation qu'on a faite ce matin nous a montré un jeu, on a essayé de faire apparaître ce jeu, on a essayé de se concentrer sur ce jeu, jusqu'à le faire apparaître un jeu, hein, qui nous apparaît, mais qui n'est pas, en fait, hein, comme ça. Donc ce jeu nous apparaît comme quelque chose qu'il n'est pas, comme quelque chose de concret, hein, quelque chose de solide, quelque chose qui est comme une entité qui ne change pas. On a toujours l'impression que ce jeu, il est là, il est toujours avec nous, il est inchangeant, il est permanent. On a toujours eu ce jeu depuis qu'on est enfant et jusqu'à notre mort. Il y aura ce jeu. Et c'est quelque chose qui est dans notre cœur, ou je sais pas où, on peut penser qu'il est dans le cœur, mais on voit bien qu'il n'y est pas. Et que l'on conçoit, que l'on perçoit, que l'on appréhende comme quelque chose d'inchangeant, qui ne change jamais. C'est ça, non? Le jeu qu'on perçoit. Tout le reste change, voilà, mais pas le jeu. Donc une entité, une essence, si vous voulez, une essence inchangeante qui existe par sa propre nature, hein, le jeu, qui existe par elle-même, de son propre, on dit aussi, de son propre côté. Hein, indépendant, quelque chose qui existe par nature, ça veut dire quelque chose qui n'a pas besoin des autres, en fait, pour exister. Qui existe autogène, je crois, il y a un terme comme ça, je crois, je sais plus, qui existe par lui-même, qui n'a pas besoin d'autre chose. Et c'est comme ça que le jeu nous apparaît. Hein. Et quand on l'analyse, eh bien, on voit bien qu'il n'existe pas comme ça, qu'il existe forcément. Il existe, mais comment? En dépendance d'autre chose, des agrégats, de l'esprit, etc. Donc il apparaît comme quelque chose qu'il n'est pas, une entité inchangeante qui existe de son propre côté, et notre ignorance, notre esprit ignorant, s'attache à cette vue erronée. Hein? Il est complètement pris, notre esprit est complètement pris par cette vue erronée, comme quelque chose qu'il ne veut pas lâcher, en quelque sorte. on devient, voilà, comme quelque chose, comme si l'on était un peu addict, hein, comme on dit, accro à ce fantôme, hein, à cette illusion, à cette chimère, hein, qui, que l'on prend pour réel. Ce jeu que l'on prend pour réel et auquel on attache une importance démesurée, comme si on avait en nous un trésor incroyable que l'on protège contre les autres et que l'on essaie de toujours mettre en valeur et de développer, comme si c'était notre bien, notre richesse la plus précieuse. Et c'est ça la conscience, c'est ça l'ignorance, hein. Donc vous voyez, l'ignorance, c'est pas simplement le fait de pas savoir, c'est de constamment mettre sur ce jeu une existence qu'il n'a pas. Donc la sagesse, au contraire, reconnaît que cette existence, donc apparemment autonome, est complètement vide. Hein, c'est ça la vacuité. Hein. Ce jeu, il est vide de quoi ? Il est vide de quelque chose, hein, quand on dit vide. Ça veut pas dire que tout est vide, qu'il n'y a rien, mais il est vide de cette existence autonome qu'on lui prête à chaque seconde, à chaque instant. Donc, ce jeu autonome est totalement, mais alors totalement inexistant. Hein. Il n'a jamais existé, ni conventionnellement, ni ultimement. C'est une pure fabrication mentale. Et donc, par la sagesse donc, permet de détruire l'ignorance. Grâce à la sagesse, l'ignorance est détruite. On dit donc il est dit dans les écritures bouddhistes que pour réaliser la vue correcte de la vacuité, même le fait d'avoir une perception correcte de la vue de la vacuité ou une appréhension juste, hein, de la vue de la vacuité, un seul instant, hein, ça ébranle complètement le samsara. Hein. Donc pour détruire le samsara, vous voyez, quand on parle, je me souviens quand on avait fait donc le cours sur le samsara. Certains avaient dit, mais c'est quand même impossible de détruire le samsara. Ça paraît complètement une entreprise démesurée, quoi. C'est pas à notre portée. Mais en fait, c'est ça qui va détruire le samsara. C'est la vue juste de la vacuité. Un seul instant de perception juste de la vacuité ébranle le samsara et non seulement l'ébranle, mais élimine ses fondements. C'est-à-dire qu'il va s'écrouler, le samsara. Et certains maîtres disent même le simple fait d'avoir des doutes, hein, c'est-à-dire que les choses n'existent pas telles que je les perçois, le simple fait de penser à ça et d'avoir un doute sur l'existence véritable des choses, c'est déjà une manière d'ébranler le samsara. Donc c'est ça qu'il nous faut cultiver. Plus on va cultiver cette idée ou cette perception juste de la vacuité, cette compréhension juste de la vacuité, voilà, plus on va mettre un terme au samsara, jusqu'à ce que l'on perçoive directement la vacuité, et là, le samsara part en morceaux. Et il n'y a plus de souffrance. Ça veut dire quoi, le samsara ? Tu connais libéré du samsara ? Ça veut dire plus de souffrance. Hein ? Ça veut dire plus de souffrance, ça veut dire qu'on voit les choses telles qu'elles sont, avec en même temps beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, puisqu'on est sur la voie du Mahayana. Ça permet donc d'agir d'une manière parfaite pour soi et pour les autres. Et il n'y a plus de perturbation mentale. Hein. On ne s'identifie plus à un faux jeu, à quelque chose qui n'existe pas. Hein. Donc ça veut dire plus de colère. Plus de colère. Hein. Quelqu'un qui a réalisé la vacuité, il n'a plus de colère. Hein. Il n'a plus d'attachement. Il n'est pas attaché au chocolat. C'est pas... On peut lui en offrir, il le mangera, oui, il ou elle, mais sans attachement, hein, sans considérer que c'est un mode de survie. Et donc c'est ça, donc quelqu'un qui a réalisé la vacuité, qui a réalisé la vue correcte de la vacuité. Et donc, Dhammasopa dit, donc ça ébranle le samsara. C'est comme si tout d'un coup un tremblement de terre avait lieu, hein, un tremblement de terre qui fait tomber des montagnes. Et d'après la Matsonkapa, donc il y a trois choses sur lesquelles, ce qu'on vient de voir, nous devons nous concentrer pour préparer notre esprit, hein, à cette réalisation. Cette réalisation, elle ne va pas venir toute seule. Il faut des causes, hein, puisque tout est interdépendant. Que ça veut dire que tout est interdépendant ? C'est-à-dire que les choses n'apparaissent pas d'elles-mêmes. Hein. Elles ne naissent pas d'elles-mêmes. Elles ne peuvent pas venir sans cause. Hein. Et la réalisation de la vacuité ne fait pas exception à ça. Si elle vient, c'est parce qu'on met les causes pour qu'elle vienne. Donc, pour préparer notre esprit à la réalisation de la vacuité, il faut éliminer les obstacles. On a des obstacles internes, ce n'est pas des obstacles extérieurs, c'est les obstacles internes qui nous conditionnent et qui nous empêchent justement de franchir ce pas-là. Et l'une des, c'est ce qu'on disait ce matin, l'accumulation de mérites, accumuler des mérites, pratiquer l'accumulation de mérites, la dévotion à ses maîtres spirituels, Nyingma Kappa, et d'étudier, des sujets comme ce qu'on étudie là, le lamrim, la voie graduelle vers l'éveil. Donc, grâce à ça, la compréhension viendra très vite, si on suit ce conseil, nous dit Lama Sopa Rinpoche. Suivre le conseil de, qui nous était donné dans les trois principaux aspects de la voie. Donc voilà. Entre midi et deux, j'ai regardé pour répondre à la question d'André, un peu dans les, je suis retourné dans le texte, pour, sur ce simple jeu. Je voulais quand même vérifier que je n'avais pas dit une bêtise. Donc merci André. Ça m'a fait revoir certains points. Pour les prasangikas. Hein. Donc le simple jeu, ce qu'on appelle le simple jeu, c'est ce qui est simplement désigné en dépendance de la conscience, de la continuité, pardon, de la conscience mentale. Hein. C'est ce qu'on désigne, simple jeu. Ce n'est pas un jeu qui existe véritablement. C'est ce qui est simplement désigné. C'est ce qu'on appelle le simple jeu. Parce que c'est une simple désignation sur, en dépendance de la continuité, comme tu disais, de la conscience mentale, puisque c'est ça qui transite d'une vie à l'autre. Donc pas forcément des agrégats, mais on regarde de l'agrégat de la conscience mentale. Il y a des discussions, là, parce qu'en tibétain, il n'y a pas le pluriel. Ils n'ont pas mis le pluriel. Parfois, ils le mettent, parfois, ils ne le mettent pas. Donc, on ne sait pas si c'est les agrégats ou si c'est l'agrégat. À mon avis, c'est plutôt l'agrégat. Donc, la conscience mentale, c'est ça qui transite de vie en vie jusqu'à l'éveil. Jusqu'à l'éveil. Hein. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on met dans notre conscience mentale actuellement, en réfléchissant sur la vacuité, si on est déjà là, c'est qu'on a des empreintes, qu'on a déjà mis des empreintes précédemment et donc... on est en train là, d'entretenir un petit peu ces empreintes, d'arroser un petit peu les graines. Et ces graines vont forcément germer plus tard. Hein. Donc c'est cette continuité. Et la personne existe comme étant cette continuité. Et qu'est-ce qui passe d'une vie à l'autre ? C'est cette continuité mentale qui est, où il y a un simple jeu, hein, qui est simplement désigné. Hein. C'est ce que dit l'école Prasangika. Hein. Après, d'autres écoles peuvent avoir d'autres interprétations. Hein. Voilà. Mais ici, on est... Voilà. Juste pour que tu comprennes un peu mieux. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de commencer ? Ou avant de continuer, plutôt ? Ouais, prenez le réflexe de saisir le micro, qui n'existe pas véritablement. Mais...
Merci. Alors oui, moi j'avais une question sur un vers, le 11 là. Si l'apparence de la relation en dépendance qui est infaillible est acceptée séparément de la vacuité, et tant qu'elles sont perçues comme distinctes, on n'a pas encore réalisé la pensée du Bouddha. Mm-hmm. Alors ça veut dire que...
On n'a pas encore réalisé la vue juste.
Ouais. Oui, alors là, ça... c'est la 11. Ouais. Je ne comprends pas très bien l'apparence de la relation en dépendance.
Mm-hmm. Qui est infaillible.
Ça évoque quel...
Ouais, on verra peut-être un peu plus tard quand on parlera de... ça veut dire qu'en fait, tout simplement, bon, on en parlera un peu plus peut-être, on verra, que ça veut dire que production en dépendance, relation en dépendance, ça veut dire que tous les phénomènes sont reliés, n'existent pas par eux-mêmes. Donc si les phénomènes n'existent pas par eux-mêmes, ils sont vides d'une existence indépendante. Ok ? Ils sont interdépendants. Donc, tu vois, vide de, ça veut dire vacuité. Donc, les deux sont alliés, en fait. Quand tu comprends la production interdépendante, tu comprends la vacuité. Et quand tu comprends la production interdépendante, production veut dire les phénomènes sont produits. Ils ne sont pas produits d'eux-mêmes, ils sont produits de tout un tas de choses qui n'existent pas intrinsèquement. Attention, hein. On y reviendra. Quand on dit produit d'autre chose, ça ne veut pas dire que mon réveil il peut produire un iPad. Hein. Sinon, ça ne marche pas, ça. Hein. Mais mon iPad, il n'est pas venu tout seul. Il a été produit par tout un tas de conditions. Il a été produit par un ingénieur, ou des ingénieurs, j'en sais rien. Il a été produit par... Il y a du carton, il y a du papier, je ne sais pas. Il y a un écran, toutes sortes de choses là-dedans. C'est une production interdépendante qu'on appelle iPad. Voilà, ou tablette, ce que vous voulez. Et ça, c'est une production. Donc, c'est vide d'une existence en soi. Okay, automatiquement. C'est vide d'une existence indépendante.
C'est un concept.
Exactement. C'est ça. C'est conceptualisé par la pensée. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, quand on voit ça, quand on comprend la production interdépendante, on comprend que les choses sont vides. Vides d'une existence en soi. Et quand on comprend que les choses sont vides d'une existence en soi, on comprend la production interdépendante. Les deux, et il faut que les deux apparaissent en même temps. S'il n'y en a qu'un, si l'un, par exemple, si la vacuité... Si en comprenant la vacuité, tu penses que les choses n'existent pas, tu nies la relativité, tu nies le monde conventionnel. Et là, c'est pas bon. Donc il faut que les deux apparaissent en même temps, et comme se compléter l'une et l'autre. C'est comme ça que tu élimines les deux extrêmes. En voyant la vacuité, on élimine l'extrême de quoi ? On élimine l'ignorance, ok. Mais on élimine quel extrême ? Il y a deux extrêmes. Hein. Je vous rappelle, nihilisme et éternalisme. Ouais. Oh, pardon ?
Du réalisme.
Oui, hein, c'est ça. Le réalisme, la permanence, le réalisme. Que les choses existent comme ça, de manière permanente, en voyant la vacuité. Et en voyant la production interdépendante, on élimine le nihilisme. Pourquoi on élimine le nihilisme ? Ouais, parce qu'on ne rejette pas la conventionnalité. On voit bien que les choses existent. Hein. Donc on ne tombe pas dans un néant où rien n'existerait du tout. Vous voyez, les deux sont extrêmement importants. Hein. Ça, c'est une méditation incroyable qu'on peut faire sur toutes les choses. Mais on fera ça plutôt demain. On verra. On a encore du chemin à faire pour la première méthode qu'on n'a pas encore vue. Bien. D'autres questions ? Oui.
Est-ce que là, quand tu dis donc l'atteinte de la vacuité, la réalisation de la vacuité, est-ce qu'il faut penser que quand on atteint la vacuité, c'est qu'on a atteint
quand on réalise la vacuité,
vacuité, c'est qu'on est déjà qu'on a réalisé la bouddhéité.
Ah non, pas du tout pareil. C'est deux choses différentes. En réalisant la vacuité, vous êtes libéré du samsara. Hein, vous réalisez l'absence d'existence intrinsèque du soi et des phénomènes. Mais si vous n'avez pas cultivé ce qu'on appelle la bodhicitta, vous n'êtes pas encore Bouddha. Hein, c'est-à-dire, il vous faut développer l'esprit d'éveil.
Donc tu veux dire qu'on peut réaliser la vacuité en tant qu'être humain.
Oui.
Et
continuer après.
Mais on est un être humain, on est toujours dans le samsara.
Eh oui. On n'est pas dans le samsara, mais on est un être humain. Mais qui est libre du samsara.
Qui est libre du
samsara. Un être humain n'est pas forcément quelqu'un qui est dans le samsara. Hein, d'accord ? Un être humain peut être libéré du samsara. D'accord ? S'il a réalisé la vacuité. D'accord ? Par exemple, nos maîtres ont réalisé la vacuité, ils sont des êtres humains, ils ne sont pas dans le samsara. Leur esprit n'est pas dans le samsara. Le samsara n'est pas un lieu physique, hein, on est bien d'accord. C'est l'état de votre esprit qui est prisonnier du karma et des perturbations mentales. C'est ça le samsara. Quand notre esprit est prisonnier du karma et des perturbations mentales, on dit que notre esprit est dans le samsara. C'est une manière de parler, hein. D'accord ? Donc quand on perçoit la vacuité et qu'on se libère de ça, hein, quand on perçoit les choses telles qu'elles sont, on élimine ça et on se libère du samsara.
J'ai du mal à comprendre.
Donc après, la voie n'est pas finie. Si l'on est dans le petit véhicule, c'est fini. On devient un arhat. Hein, et là, on est dans la paix du nirvana, tout va bien. Okay, on est réalisé, on est sorti du samsara. On a la libération individuelle. Si on est dans le grand véhicule, on va continuer pour atteindre l'état de Bouddha parce qu'on n'est pas satisfait de ça. Hein. Et on continue donc à éliminer des voiles subtils jusqu'à pouvoir atteindre l'état de Bouddha. C'est plus clair?
Non, tu as rajouté un problème.
C'est
un maître,
c'est ma spécialité.
Un maître spirituel donc n'est plus dans le samsara ou peut ne plus.
Qui a réalisé la vacuité.
Qui a réalisé la vacuité.
Il perçoit la vacuité.
Je peux prendre l'exemple de Geshe Laoden.
Oui, si tu veux. Oui. Voilà.
Donc il a peut-être réalisé la vacuité, je ne sais pas si c'est le cas.
Je ne sais pas.
Donc il n'est peut-être plus dans le samsara. Mais pourtant, il est en tant qu'être humain.
Ben
et
oui.
Si on n'est plus dans le samsara, c'est qu'on ne peut plus avoir de souffrance.
Oui, mais on est quand même un être humain. On a quand même un corps humain. C'est l'esprit qui a de la souffrance, ce n'est pas le corps.
D'accord. Pour toi, le sortir du samsara, c'est uniquement par l'esprit.
Ah oui. Le corps reste...
Quand tu réalises
la vacuité, ton corps reste toujours là. Tu ne meurs pas quand tu réalises la vacuité. Tu ne deviens pas
Je pensais qu'on devenait une entité subtile.
Non, on ne devient pas un ange ou...
Par exemple. Ça, en tout cas,
Non, on reste un être humain. On reste un être humain et on continue à fonctionner dans la société, à faire des choix, à conduire sa voiture, je ne sais pas moi, à décider qu'aujourd'hui on va faire ceci et que demain on va faire cela et que ces choix, ça fonctionne. La loi de cause à effet n'est pas niée, hein.
Donc on est un être humain bien plus élevé spirituellement,
au
niveau vibratoire, mais ça personne ne le voit ou c'est difficile à percevoir.
C'est difficile à percevoir. Si tu as réalisé la vacuité, peut-être tu comprendras qu'un tel aussi a la réalisé. Sinon, ça se voit pas, c'est pas marqué sur son front, quoi. Mais c'est un être humain, voilà, bien sûr.
D'accord.
Voilà. Bon. Donc être humain, on reste humain quand on a réalisé la vacuité. C'est juste l'esprit qui est
libéré.
Libéré. Exactement. Et donc, j'essaie de vous montrer que c'est pas une démarche forcément inatteignable. Il suffit simplement de voir les choses telles qu'elles sont. Hein, c'est tout. C'est pas un truc gigantesque auquel on va jamais arriver. On peut réaliser la vacuité. Hein. On doit réaliser la vacuité. Même je vais l'ajouter. Il faut. Quand vous l'aurez réalisé, vous viendrez me chercher. Vous viendrez m'aider pour me dire. Ensuite, oui, tu avais une question.
Oui. Alors, à partir de quel moment on n'est plus un être humain?
Qu'on est toujours un être humain.
On est toujours jusqu'au bout, jusqu'à l'éveil.
Oui, on n'est pas un être ordinaire, hein, on va dire, hein, si tu veux utiliser le mot. Hein. Tant qu'on n'est pas un Bouddha, on est un bodhisattva, par exemple, si pour mettre des termes, hein, pour mettre des qualificatifs, des désignations, on est un bodhisattva sur la voie de l'éveil. On n'a pas encore atteint l'éveil, mais on a peut-être réalisé la vacuité. Un bodhisattva n'a pas forcément réalisé la vacuité. Hein. Il est peut-être... mais il a réalisé bodhicitta, par contre. Un arhat, lui, a réalisé la vacuité, mais il n'a pas bodhicitta.
Oui, c'est plus clair.
C'est vrai? Oh, ben, tant mieux. Ça s'intègre d'aller la main, oui. Bien sûr. Il garde un aspect physique. Ça s'intègre d'aller la main, par exemple, garde un aspect physique humain. Il a l'air d'un être humain. Ressemble tout à fait à un être humain, avec un visage, des bras, des jambes et tout. Mais son esprit n'est pas un esprit ordinaire. Voilà. C'est ça. Esprit d'un Bouddha. Ben oui, bien sûr. Tu n'es pas la seule à le considérer comme ça. Des milliers de Tibétains le considèrent comme ça, et des Occidentaux aussi. Sur Zoom, est-ce qu'il y a des questions?
Je ne devais pas poser de questions, mais j'avais assisté à une conférence de Mathieu Ricard sur la vacuité.
Oui.
Et j'ai le souvenir, il disait à quoi ça sert de réaliser la vacuité. Et il avait dit, si je me souviens bien et que je ne déforme pas, on ne peut qu'être altruiste. Il est impossible, après avoir réalisé la vacuité, de ne pas être altruiste.
Exactement.
Ça m'avait frappé à
l'époque. Puisqu'on voit l'interdépendance avec soi-même, avec tous les êtres, comment on ne serait pas altruiste, hein, quand on a réalisé la vacuité? On voit bien que tout est interdépendant, qu'il n'y a rien qui existe en soi, qu'il n'y a pas d'être, il n'y a pas de moi là et vous là-bas. Donc forcément, hein, on devient altruisme. C'est un corollaire immédiat de la réalisation de la vacuité. Après, est-ce qu'on va s'engager à atteindre l'éveil pour justement vouloir libérer les êtres du samsara? Ça, c'est autre chose. Hein, quelqu'un qui a réalisé la vacuité, il est certes altruiste, donc même un arhat, il a encore, bien sûr, il a de la compassion, il a de l'amour pour les êtres, il est bienveillant, il voit bien qu'il n'y a pas de différence entre lui et les autres, mais il n'a pas forcément cette notion de responsabilité universelle à vouloir libérer tous les êtres du samsara, qu'un bodhisattva cultive sur sa voie, sur la voie des bodhisattvas. L'altruisme est là, hein, bien sûr, que dès qu'on a réalisé l'activité. Après, bien sûr, il y a plus que l'altruisme. Hein, il y a la compassion et il y a la bodhicitta. La bodhicitta étant un niveau au-dessus de l'altruisme et de la compassion. Altruisme et compassion, on va dire que c'est la même chose. Mais la bodhicitta, c'est quand même un niveau au-dessus. C'est quoi la bodhicitta? Vous savez, c'est plus que la grande compassion. Hein, c'est l'esprit d'éveil, c'est-à-dire l'aspiration et l'engagement hein, à atteindre l'éveil pour le bien des êtres, c'est-à-dire pour les amener hors de la souffrance et les amener à l'éveil. C'est ça la bodhicitta. C'est ça qui conduit à l'état de Bouddha. Si on n'a pas la bodhicitta, on n'atteindra pas l'état de Bouddha. Comme l'explique le Tsongkhapa. Hein. Mais même si l'on a réalisé la bodhicitta, si on n'a pas cultivé la vue juste de la vacuité, ben on est encore dans le samsara. Quoi. On n'est pas encore libéré. Donc il faut vraiment ces trois aspects, le renoncement, la bodhicitta et la vacuité. Si on n'a pas le renoncement, on n'a pas la bodhicitta. C'est difficile d'avoir la bodhicitta si on n'a pas le renoncement. Si on n'a pas renoncé au samsara, on n'aura pas, comment voulez-vous qu'on pense que les autres vont en être libérés? C'est pas possible. Il faut que soi-même, on ne soit plus attiré par les apparences merveilles du samsara qui sont en fait de la souffrance, quoi. Voilà, comme on l'a bien vu dans le module précédent. Oui. Autre chose ou on continue? Oui, vas-y, Daphné.
Alors, moi, je n'ai pas très bien compris.
Vas-y.
Ce que c'est en fait réaliser la vacuité. C'est-à-dire, c'est de réaliser au niveau de la conscience, c'est-à-dire on médite et on a conscience que finalement on est tous interdépendants, mm-hmm. Ou est-ce qu'il y a quelque chose
d'autre? Bon, la première chose, c'est déjà d'en prendre conscience. C'est-à-dire, si ta méditation, elle te donne comme une intuition ou comme une petite perception mentale, tu vois, que vraiment les choses sont interdépendantes, c'est un petit aperçu de la vacuité, peut-être. C'est pas une réalisation. Une réalisation, ça veut dire que c'est stable. Ça veut dire que quand tu l'as réalisé, tu l'as réalisé. Tu vis avec ça jour et nuit. Hein, tu vois. C'est quelque chose qui ne te quitte plus. Tu as perçu les choses, voilà. Et alors après, c'est entretenu, bien sûr, par la méditation. Chaque fois que tu médites sur la vacuité, tu as la même expérience de vacuité. Voilà. Dans le quotidien, c'est peut-être un peu difficile, suivant ce que tu vas faire. Il n'y a pas forcément cette perception constante de la vacuité. Mais tu sais très bien que tu l'as réalisé pendant la méditation. Et ça laisse des traces. Tu vois, ça laisse une trace très profonde qui revient. Et plus tu méditeras sur la vacuité, plus cette perception que tu as eue à un moment donné, qui a peut-être duré une seconde ou j'en sais rien, va s'étendre. Tu vois, parce que tu vas utiliser les mêmes arguments. Tu auras perçu quelque chose. Et ce quelque chose que tu as perçu, ben, si tu l'as perçu pour le jeu, par exemple, hein, qui n'existe pas véritablement, tu vas l'appliquer sur les différents phénomènes, et c'est le même principe. Donc quand on dit réaliser la vacuité de tous les phénomènes, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre les phénomènes un par un, et puis méditer sur la vacuité, sinon on n'en sortirait plus. Hein. Ça veut dire que simplement, ayant réalisé la vacuité du jeu, du moi, de l'individu, vous l'appliquez à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous vivez, à tout ce qui se passe autour de vous. C'est le même principe. C'est ça, réaliser la vacuité. C'est d'avoir cette perception directe. La perception directe, on l'a pendant la méditation. Hein, on peut avoir cette perception directe de la vacuité pendant la méditation. Quand vous sortez de votre méditation, vous la perdez. Hein, vous êtes dans vos activités, vous devez voilà, vous occuper de votre famille, je ne sais pas, vous n'êtes plus dans la perception directe de la vacuité. Mais cette perception directe, vous l'avez eue. Et donc, après, on dit voilà, qu'il y a deux aspects. Quand vous méditez sur la vacuité et que vous la percevez réellement, hein, vous la percevez directement, pardon, on appelle ça une vacuité semblable à l'espace. C'est-à-dire que votre esprit, il est comme dans un espace, quoi, vide, où vous avez perçu cette vacuité qui est comme un grand espace. Quand vous sortez de votre méditation et que vous voyez les choses qui fonctionnent conventionnellement, c'est la vacuité qui est semblable à une illusion. Vous voyez tout ce qui se passe, les gens, les voitures, tous les phénomènes du samsara, mais vous ne les voyez plus comme existant réellement, vous les voyez comme une illusion. Pourquoi comme une illusion ? Une illusion au sens où ils ne sont pas illusoires, ils existent ces phénomènes. Les gens souffrent, ils ont des difficultés. On ne peut pas dire que les souffrances n'existent pas, mais vous voyez que ces souffrances sont pareilles à les illusions, au sens où elles semblent exister. Une illusion, c'est quelque chose qui semble exister, hein, mais qui n'existe pas. Comme un mirage, par exemple. Tu vois, quand tu vois un mirage dans le désert, par exemple, ça a l'air d'exister véritablement. Plus tu t'en approches, plus ça disparaît. Même chose pour la vacuité qui est semblable à une illusion. Hein, on voit tous ces phénomènes qui fonctionnent par la loi de cause à effet, hein, la loi de l'interdépendance, justement, tout fonctionne. Hein. Mais rien n'existe intrinsèquement. Et c'est justement parce que les choses n'existent pas intrinsèquement, réellement, qu'elles peuvent fonctionner. Vous imaginez ? Si les choses existaient réellement, véritablement, au sens où elles étaient produites d'elles-mêmes, rien ne pourrait fonctionner. Tout serait figé, tout serait bloqué, en quelque sorte. Il n'y aura pas d'interdépendance possible. Chaque chose existant véritablement, existant indépendamment, il n'y aura pas d'interdépendance. Rien ne pourrait fonctionner. Donc c'est parce que les choses n'existent pas intrinsèquement, véritablement, comme vous voulez, que l'interdépendance peut se produire. Donc ça, vous le voyez, et vous voyez que si vous avez encore des apparences d'existence véritable, vous voyez que cette apparence, c'est une illusion. C'est comme une illusion. Ce qui peut vous apparaître, parce que vous n'avez pas éliminé tous les voiles, vous n'êtes pas encore Bouddha, donc il y a encore des choses qui vous apparaissent comme existant intrinsèquement. Mais comme vous avez réalisé la vacuité, vous amenez votre compréhension là-dessus, et ça se dénoue totalement. Il n'y a plus de saisie. Il n'y a pas de saisie dessus. Donc c'est ça, en fait, réaliser la vacuité. C'est que la saisie de l'existence véritable, elle a disparu. Elle a disparu dans la méditation, et elle disparaît aussi graduellement dans la vie quotidienne, hein, puisqu'il n'y a pas de saisie. C'est un peu plus clair ? Voilà.
Oui, tu parles des plaisirs du samsara.
Des
plaisirs samsariques.
Des plaisirs samsariques, oui.
Par exemple, dans la voie du zen.
Du zen.
Et dans d'autres voies aussi.
Je ne connais pas bien la voie du zen, malheureusement.
Et il y a un jour où ils festoient carrément, mais le lendemain, c'est fini, quoi. Ils n'ont aucune souffrance par rapport à ça.
Ah oui, t'es sûr ?
Oui.
Tous ? Tous les grands maîtres.
Chez les grands maîtres, on les appelle.
Les grands maîtres, oui.
Les grands maîtres, on dit, c'est des grands appréciateurs. C'est-à-dire, ils apprécient
oui.
Une tasse de thé, ils apprécient.
Mais ils ne sont pas attachés à ça.
Ça n'induit pas une souffrance.
Ben oui, parce qu'ils ne sont pas attachés.
Voilà. Mais oui. En fait, ce n'est pas le plaisir par lui-même.
C'est ça. Exactement. Exactement. Un être ordinaire est forcément attaché au plaisir.
Oui, plus ou moins encore.
Plus ou moins, bien sûr. Tout dépend de l'identification que l'on a par rapport à ce plaisir. Tout est là. Tout dépend de son ignorance. C'est ça. Exactement. Plus on s'identifie à ça... plus à de la souffrance. Plus ou moins, oui, mais... tout à fait. Sur Zoom ? Pas de questions ?
Moi, pardon.
Oui ? Bonjour, qui c'est ? Colette ?
Pardon ?
Non, je ne vois pas. Qui c'est ? Qui parle ?
C'est Céline.
Céline, bonjour. D'accord, bonjour.
J'ai juste une question par rapport à... si on réalise la vacuité... on se rend compte de l'interdépendance des phénomènes. D'accord. Mais du coup, je ne comprends pas que ça ne génère pas automatiquement l'esprit d'éveil. Parce que si on voit l'interdépendance des phénomènes, on ne se rend pas compte de la souffrance de tout le monde.
Si, on se rend compte de la souffrance. Mais ce n'est pas ça. Pour pouvoir produire l'esprit d'éveil, c'est une... c'est pas la même méditation. Quand vous méditez sur la vacuité, vous méditez pas sur l'esprit d'éveil. Hein, mais Et après, bien sûr, que cette méditation vous incite à développer l'esprit d'éveil, c'est tout à fait possible, et c'est même souhaitable. Hein. Mais ça, c'est pas forcément en même temps. Ouais. C'est deux choses, deux objets d'observation, on va dire, complètement différents. Soit vous méditez sur la vacuité, soit vous méditez sur la bodhicitta. Vous pouvez pas méditer sur les deux en même temps. Hein.
Non, d'accord.
Après, l'art, justement, c'est de les équilibrer, les deux. Mais on peut très bien réaliser la vacuité, méditer sur la vacuité et réaliser la vacuité sans bodhicitta. Il y a des pratiquants, c'est comme ça. Dans le Mahayana, on est encouragé à développer les deux. Hein. C'est la voie des bodhisattvas. Mais la bodhicitta, c'est vraiment un engagement. Hein. C'est d'ailleurs, bien sûr, on peut voir la souffrance des êtres, on comprend tout ça, on compatit, on peut voir de la compassion, de l'empathie, etc. C'est pas la bodhicitta, ça. C'est simplement de la compassion. Hein. La bodhicitta, c'est vraiment un engagement à atteindre l'état de Bouddha. Vous savez, on l'a étudié, ça, hein, dans le module, je ne sais plus combien, 10 ou 9. Il faut, pour réaliser la bodhicitta, il vous faut deux choses. Hein. Il vous faut l'aspiration à atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ouais. Pour le bien de tous les êtres. Donc, c'est-à-dire voir la souffrance des êtres. D'abord parce qu'on a vu la sienne. Hein, et on réalise que cette souffrance, bien sûr, elle n'existe pas. Mais n'empêche que les êtres souffrent. Donc, comment on a une aspiration à les sortir de la souffrance. Et pour les sortir de la souffrance, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ben, on va atteindre l'éveil. Mais la première motivation, la première aspiration, justement, c'est ça. C'est bien de sortir les êtres de la souffrance. Et pour ça, on va s'engager vers la voie vers l'éveil. Et c'est un engagement, c'est-à-dire que la voie de l'éveil, elle est... C'est pas parce qu'on a réalisé la vacuité que c'est fini. Il y a encore des choses à éliminer. Ça peut aller très vite.
Je pensais que de voir la souffrance, justement, ça générait l'envie de...
Non. Ça peut générer la compassion. Ça, c'est sûr, oui. Et l'altruisme, tout ça, tout à fait. Après, la bodhicitta, c'est, comme je vous disais, c'est un peu... C'est un engagement, une responsabilité.
Merci.
Et ça, c'est vraiment... Les bodhisattvas, c'est... D'ailleurs... Est-ce que je sais plus dans quoi. Je crois que c'est Chandrakirti justement qui commence son traité sur la voie du milieu justement en rendant hommage à la grande compassion. En rendant hommage à la grande compassion. Je vais peut-être essayer de retrouver la. Enfin, bref. Et parce que justement, et c'est ça qui va ensuite permettre de devenir Bouddha. C'est parce qu'on a cette grande compassion qu'on va développer bodhicitta et qu'on va devenir Bouddha. Après, ça s'enchaîne. Voilà. Et c'est grâce au Bouddha que toutes les voies existent. Que la voie du Mahayana et que la voie du Hinayana existent. Bien. Oui.
Oui, j'ai une question. Je suis un petit peu comme la personne qui vient de parler tout à l'heure.
Oui.
Une fois que l'on a réalisé la vacuité,
oui.
Qu'est-ce qui empêche cet être-là
oui.
de continuer sur le chemin de la bodhicitta pour atteindre l'éveil, pour le bien de tous les êtres? Parce qu'en fait, j'ai compris que la réalisation de la vacuité entraînait la compassion et l'altruisme.
Mmh.
Et à partir de là, qu'est-ce qui peut bloquer? Je comprends pas bien. Qu'est-ce qui peut bloquer pour ne pas continuer le chemin et revenir pour aider tous les êtres, quoi? Continuer le chemin des bodhisattvas.
Mais parce que cette personne n'était pas sur la voie des bodhisattvas. Cette personne était sur la voie du petit véhicule. Donc dans la voie du petit véhicule, il n'y a pas forcément d'enseignement sur le fait de développer la bodhicitta. Vous n'avez pas un maître spirituel qui vous incite continuellement à bodhicitta. Vous, si vous vous posez cette question, c'est merveilleux, parce que ça veut dire que, parce que vous ne comprenez pas comment, ça veut dire que vraiment vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie du Mahayana, la voie qu'on est en train de suivre, et où pour nous, c'est évident que cette voie, elle mène à l'état de Bouddha, et qu'il faut développer la bodhicitta. Ça n'avait pas un doute. Parce que nous sommes déjà convaincus. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus. Si leur maître, s'ils ne sont pas dans la voie où un maître leur donne des enseignements sur la bodhicitta, ils ne vont pas la développer. Nous, nos maîtres n'arrêtent pas de nous parler de bodhicitta, que ce soit le Saint-Tel Dalai Lama, l'Amazopa, la Mayeshe, tous, depuis qu'on est entré qu'on a franchi la porte ici de la Gompa, on n'entend que des maîtres nous parler de bodhicitta. Donc pour nous, c'est évident. Il n'y a pas d'autre voie pour nous que la bodhicitta. C'est la voie royale. C'est la voie immédiate, celle qui va nous emmener à l'éveil. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans d'autres traditions bouddhistes, l'accent n'est pas autant mis sur la bodhicitta. Parce que bon, on médite plus sur d'autres aspects, sur le fait, par exemple, de réaliser la vacuité ou d'autres choses, mais pas sur la bodhicitta. Donc, si vous vous posez cette question, ben bravo, c'est bien que vous êtes sur la bonne voie de la bodhicitta, que c'est automatique pour vous qu'il faut devenir Bouddha.
Parce qu'aspirer au nirvana, moi, je le vois un petit peu, pas en conflit, mais je ne vois pas comment ça peut se marier avec l'altruisme.
Bien sûr. Au niveau de la définition, c'est vrai, ça paraît tellement individuel. On parle de libération individuelle, on se libère pour soi, tout ça. C'est vrai qu'au niveau de la définition, le nirvana, c'est une paix individuelle. Mais dans cette paix individuelle, je pense que on voit bien que les autres souffrent et on compatit pour la souffrance des êtres, quoi. Je pense que tous les êtres qui ont réalisé la vacuité, ils ont en même temps, ils ont pas la bodhicitta, mais ils ont des élans de compassion pour les autres. C'est évident. On peut pas dire que les pratiquants du petit véhicule n'aient pas de compassion. Ça serait complètement erroné de dire ça, de dire qu'ils n'ont aucune compassion. Non. Même si le terme, la définition, si on la prend stricto sensu, on parle de libération individuelle. Il y a quand même une empathie pour les autres, quoi.
La bodhicitta, c'est le pas supplémentaire.
Comment? La bodhicitta,
c'est le pas supplémentaire.
Oui, ça veut dire qu'on a déjà des empreintes en soi. Si nous, on est sur la voie, si actuellement, là, on pratique la voie du grand véhicule, ça veut dire que dans nos vies antérieures, on a été déjà en contact avec la voie du grand véhicule. Il y a des gens qui n'ont pas forcément ces empreintes-là et qui ne méditent pas pour devenir Bouddha, qui méditent, qui pratiquent pour atteindre une libération personnelle. Mais cette libération personnelle, lorsqu'ils l'auront atteint, elle va forcément les ouvrir sur l'altruisme. Alors après, s'ils reçoivent des enseignements d'un maître spirituel du Mahayana, ils vont aller vers le Mahayana. Mais c'est pas un passage, c'est pas obligé. Ça va dépendre de leur karma aussi, un petit peu. Si après, ils ont le karma de rencontrer des maîtres comme ça qui les amènent à la bouddhéité ou pas. En général, c'est ce que font les Bouddhas. Ils réveillent les gens qui sont, on dit, dans une attitude un peu trop égo. Enfin, il n'y a pas de l'égo, on peut dire ça, mais individualiste. Individuel, pas individualiste. Et qui ils les réveillent pour leur dire, mais les gars, il faut aider les autres à atteindre le même état que vous.
Merci, Christian. Merci. Voilà.
Bien.
Je voudrais poser une question, je peux ?
Oui.
Je suis au bord d'un précipice. Je vais tomber, j'ai très peur.
Oui.
Donc, je sens ce fameux jeu réel qu'il faut réfuter.
Ah, tu sens un jeu, oui. Bon, après, on verra. Oui.
Bon, je sens ce fameux jeu.
Oui.
Mais la question que je me pose, c'est si j'ai réalisé la vacuité, comment je vais vivre le fait que je suis au bord d'un précipice et que je vais tomber. Est-ce que je vais ne plus avoir peur?
Je pense, oui. Ça ne veut pas dire que vous irez forcément vous promener sur les toits pour vous amuser, comme ça. Mais non, ça veut dire que la peur aura disparu. La peur, elle est générée par une identification au moi. Hein? S'il n'y a pas l'identification au moi existant véritablement, s'il n'y a plus cette identification, il n'y aura pas de peur. Oui, effectivement, je pense, oui.
Si je comprends bien, ça voudrait dire que les bouddhistes...
N'ont plus peur.
Développés par les apprentis comme moi,
oui.
En fait, n'ont aucune peur de mourir.
Ah oui, exactement.
Et ni de souffrir.
C'est une bonne déduction. Ils n'ont, pour quelqu'un qui a réalisé la vacuité, bien sûr que non, il n'a pas peur de mourir. La mort n'existe pas pour quelqu'un qui a réalisé la vacuité. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mort pour quelqu'un qui a réalisé la vacuité.
Non, parce que je pense aux bouddhistes au Myanmar qui manifestaient contre la junte militaire.
Oui.
Et qui disait, on veut le bien de tous les êtres, je crois qu'il disait arrêtez de tuer, j'avais vu un truc comme ça à la télé, Alors, je ne sais pas si la junte, je sais qu'il y avait un soldat qui avait quitté la junte parce qu'il avait tué, à la limite, il pouvait le faire, mais tuer un moine, il ne pouvait pas le faire. Mmh.
Mmh. Et alors ?
Non, mais c'est... Si on a donc réalisé la vacuité, en fait, on n'a plus peur de rien.
Exactement. Vous n'avez pas peur de rien, c'est-à-dire vous n'avez pas peur au sens où on entend par peur que notre ego soit détruit ou que quelque chose menace notre ego. Mais on peut avoir peur, par exemple, que quelqu'un, je ne sais pas moi, que les autres fassent du mal. Je ne sais pas, ce n'est pas vraiment une forme de peur, c'est plutôt une forme de compassion. Voilà. Non, il n'y a plus de peur, non, il n'y a plus de peur. C'est d'ailleurs dit, non, mais... c'est d'ailleurs dit hein, dans le sutra du cœur. La réalisation de la vacuité élimine la peur. Toute forme de peur.
Y compris, j'ai un tank devant moi, il va m'écraser, j'ai pas peur.
Conventionnellement, vous allez faire le choix de ne pas rester sous les décombres, d'éviter de rester à ce moment-là. Quoi, hein. Conventionnellement, c'est évident. Mais pas par peur. Par, je sais pas moi, réflexe de ne pas mourir parce que vous êtes utile aux autres.
Non.
Même quand on a réalisé la vacuité, on doit faire des choix. Hein. On est confronté à des choix. Et ces choix, ils ont de l'importance. Bien, donc pour continuer, on va faire continuer un petit peu. Donc vous avez compris que l'ignorance, ce n'était pas simplement un manque de connaissance au sens passif, mais une perception qui déforme la réalité. Donc c'est bien ça, hein. On utilise ce mot dans ce sens-là, une perception que l'on croit juste, hein, souvent, mais qui déforme la réalité. Donc on ne perçoit jamais la réalité. Donc c'est quelque chose d'actif, hein, qui ne perçoit pas un objet tel qu'il est, mais qui le perçoit de manière erronée. Okay. D'accord. Donc ça, il faut bien se mettre ça dans la tête, hein, que quand on a cette ignorance, elle est la cause, en fait, de notre errance dans le samsara, justement parce qu'on a des perceptions erronées. Hein. C'est une idée fausse, en fait, l'ignorance. Simplement une idée fausse. Donc des idées fausses, on en a plein. Des perceptions fausses. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Mais à partir du moment où on a l'ignorance, voilà, on pourrait dire que toutes nos perceptions seront erronées, mais elles ne sont pas toutes fausses. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un que je connais devant moi, c'est une idée juste. Si par exemple je me trompe, que je vois que la personne que je vois en face de moi n'est pas celle que je croyais être, ben, ça sera une idée fausse. Hein. Donc au niveau conventionnel, bien sûr. Hein. Par exemple, ça arrive tout le temps. Si je vois, et ça, ces idées fausses, elles sont dictées par des événements extérieurs, par des émotions perturbatrices, par je ne sais pas quoi. Hein, si par exemple, en passant devant une pâtisserie, je vois un beau gâteau au chocolat qui coûte 20 euros et, ou 19,95, et je regarde mon portefeuille, je vois que j'ai 20 euros, super, je rentre, je veux acheter le gâteau. Et au moment de payer, je sors mon billet, et là je me rends compte que c'est un billet de 10 euros. Alors que j'ai regardé 2 secondes avant, et j'ai vu un billet de 20 euros. Perception fausse. Hein ? Pourquoi perception fausse ? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon esprit ? L'attachement au gâteau au chocolat, j'ai regardé trop vite, il y avait un mauvais éclairage, je ne sais pas quoi. Ça arrive tout le temps, ce genre de perception fausse. Hein. Donc même dans notre vécu, même si nous avons l'ignorance, nous avons en plus des perceptions complètement fausses, de temps en temps, qui nous... Donc ce n'est pas parce qu'on perçoit quelque chose hein, qu'on a raison. Tout ça pour dire ça, en fait. Tout ce qu'on perçoit, en fait, n'est pas forcément... Puisqu'on a l'ignorance, c'est toujours faux, mais même après, au niveau de la conventionnalité, ça peut être aussi, ça peut être aussi erroné. Un autre exemple qui est souvent donné, c'est celui dans les cercles bouddhistes, en tout cas, ou autres, peut-être, c'est la corde et le serpent. Hein. Si on se trompe et qu'on voit on se promène dans la forêt, par exemple, et c'est la nuit qui vient de tomber. Tout d'un coup, on voit on a l'impression qu'il y a un serpent parce que sur notre chemin, alors que c'est une corde un peu bariolée, et on prend cette corde pour un serpent. Hein, c'est une perception fausse qui nous fait croire qu'il y a un serpent. Mais si on regarde bien, il n'y a jamais eu de serpent sur cette corde. Hein. Cette corde, c'est une corde. Mais on l'aperçoit comme un serpent. Donc c'est notre esprit qui impose, comme vous voulez, une existence à une corde, une existence qu'elle n'a pas. C'est exactement ce qu'on fait avec le jeu. Avec le jeu, influencé par des perturbations mentales, l'attachement, la colère, ça, on met sur ce jeu une existence qu'il n'a pas. Hein. Et tant qu'on perçoit un serpent à la place de la corde, ça provoque une émotion, ça provoque une peur, disons. Hein. Pour en revenir à la peur. La peur d'être piqué par un serpent, surtout si c'est une vipère, si on pense que c'est une vipère. Et là, on se dit. Donc, cette perception fausse amène une peur. Donc, c'est exactement la même chose par rapport à l'ego. Quand on a cette saisie de l'ego, il y a forcément plein de peurs qui vont avec. Donc, comment. Et qu'est-ce qui va éliminer cette peur, hein, par exemple, dans le cas de la corde et du serpent, c'est la réalisation, on va dire, la réalisation juste, vraie, la perception juste. Que cette corde n'est pas un serpent et n'a jamais été un serpent. Et là, on est soulagé. Même chose pour la réalisation du jeu. Quand on réalise que ce jeu que l'on perçoit intrinsèquement existant n'a jamais existé comme on l'a perçu, que c'était simplement, on dit dans l'expression qu'on utilise dans le bouddhisme, une surimposition. Hein, on surimpose ou on superpose, si vous voulez, une existence véritable à quelque chose qui n'en a pas. Et qui n'en a jamais eu. Et à partir du moment où on voit que, hein, c'est facile quand on réalise le moment où l'on voit que c'est pas un serpent mais une corde, on est vraiment soulagé. Il y a le A de la vacuité qui on est content. Et c'est la même chose qui se produit au moment où l'on réalise la vacuité. Il y a cette réalisation que tout d'un coup tout ce à quoi on a cru comme existant véritablement n'est pas là. Il n'a jamais été là. Et ça a été quelque chose que notre esprit donc, a mis là-dessus, mais c'est une erreur. Et donc, un point. Ce serpent, en fait, il paraît complètement uni à la corde. Hein. Il paraît exister de lui-même, par lui-même. C'est un serpent qui est là, quoi. À la place de la corde. Il n'y a pas la corde et le serpent. Hein, vous voyez, il est complètement plaqué dessus. C'est la même chose avec la distance véritable. C'est à peu près le même mécanisme. C'est ce jeu qui est véritable, ce jeu véritable, ce jeu réel, que l'on plaque sur quelque chose qui existe, bien sûr. Hein, sur un jeu conventionnel, mais auquel on attribue une existence véritable, que ce jeu n'a jamais eue. Vous vous rendez compte quand ça tombe, ça? Quand on voit que cette existence véritable, elle est fausse, que c'est une perception fausse, hein, grand soulagement. Donc c'est un peu la même chose qui se passe ici. Donc notre esprit a la capacité, hein, ce qui est intéressant aussi, c'est de connaître les choses telles qu'elles sont. C'est du domaine de notre esprit, ça. De connaître les choses, de la nature de notre esprit, si tu veux. Notre esprit est connaissant. Hein, notre esprit a cette nature de connaître les choses. Et toutes ces erreurs, en fait, toutes ces erreurs sont que superficielles. Hein. C'est de la superficialité, hein, qui vient se mettre dessus. Mais la nature profonde de notre esprit, c'est de connaître la réalité. Hein. Donc se relier à ça, à cette nature profonde de notre esprit, je trouve que c'est... Ça apporte un gros soulagement, c'est un peu un antidépresseur et qui donne de l'espoir, en fait, que notre esprit et toutes ces erreurs, en fait, de perception et autres, ces fausses croyances, en fait, elles sont surimposées par quoi ? Par notre karma, par notre perturbation mentale, par des errances dans le samsara, dans les vies antérieures, où nous avons accumulé quoi ? Des actions négatives, Ce sont nos actions négatives qui sont responsables, en fait, de tous ces voiles qu'on a créés. Donc, voilà, c'est une manifestation, en fait. Donc, l'ignorance est une manifestation un peu du karma. Et il suffit, donc, c'est pour ça que la pratique consiste aussi à accumuler du mérite, à accumuler des actions vertueuses pour que notre esprit devienne plus clair, pour que les voiles se dissipent et que la nature, vraiment la vraie nature profonde de notre esprit, se révèle, la nature de Bouddha, et que l'on puisse percevoir la vacuité. Donc, c'est ça, en fait, le mécanisme. C'est un mécanisme de dévoilement, un peu. Comme quand on perçoit qu'il n'y a pas de serpent sur cette corde. Il y a quelque chose qui se dévoile, qui se révèle. Il y a un voile qui est enlevé. Hein, le voile de l'existence véritable, qui n'y est plus.
Question ?
Oui, Sven.
Excuse-moi de t'embêter avec ça, mais je reviens toujours à la première séance sur la nature de l'esprit.
Ah ben oui, ben cette séance, elle est fondamentale. On ne peut pas tout dire pendant cette séance, mais il faut... voilà, ouais. Oui, vas-y.
Du coup, à chaque week-end.
Non, mais vas-y. Bon, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel.
Est-ce qu'on peut reformuler ce que tu viens de dire en disant qu'on apprend à mieux maîtriser la clarté ? C'est-à-dire que peut-être qu'on fait on a un usage déséquilibré de la clarté, c'est-à-dire qu'on se fait apparaître par soi-même quelque chose qui bride la connaissance de l'esprit. Mmh, ouais. Comme une déséquilibre, une exagération.
Mais disons, voilà. Ouais, faire usage de la clarté, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc cette clarté, elle est là. C'est notre esprit, c'est sa définition au niveau conventionnel, hein, qu'il est clair et il connaît les choses. Hein. Il a cette, on dit, il est clair et il connaît. Hein. Il est clarté et connaissance. C'est sa nature, hein, aussi, hein, sa nature de clarté et de connaissance. C'est parce que l'esprit est clair qu'il peut connaître les choses. Moi, la clarté, elle est là, elle est tout le temps là, en fait, cette clarté. Après, il y a une clarté beaucoup plus profonde qui correspond plus à la nature plus subtile de notre esprit, qui est sa réalité plus ultime, on va dire, à laquelle on n'a pas forcément accès, hein, sauf dans certaines méditations où on peut toucher cette nature claire et lumineuse de l'esprit. Ça, c'est un... Bien sûr, si on perçoit cette nature claire et lumineuse de l'esprit, ben, la vacuité est là, hein, de toute façon. Hein. Mais ça, on est au niveau ultime. Hein. Donc, mais au niveau conventionnel et au niveau ultime, il y a cette clarté, effectivement, qui est là, qui nous permet de... Si, on peut se concentrer sur cette clarté, effectivement, en méditation, hein, sur cette clarté de l'esprit.
Merci, Christian.
Voilà. On fait une pause pour... une petite courte. Quoi donc ? On va dire que c'est le Bouddha, peut-être, quand il a fait, pendant sa phase ascétique, quand il a cru que pour atteindre l'éveil, il fallait méditer sur des choses complètes, faire l'ascétisme, pratiquer l'ascétisme. C'est pas. Ou alors. C'est un rappel de la mort aussi. Que la mort est là pour nous montrer que les choses n'existent pas véritablement aussi, que les choses sont pas aussi solides que l'on croit, elles ne sont pas figées, hein, aussi, hein. Donc ça peut nous amener aussi à ça. Ouais. Ah bon? Oui, c'est la foire aux questions.
Julia, vous pouvez parler.
Comment?
Julia.
Si Julia, vous avez... oui. Oui, Julien, on ne vous entend pas.
Julia. C'est Véronique, en fait. Non,
c'est Véronique.
Oui, donc en fait, si on réalise la vacuité, ça empêche le sentiment de tristesse vis-à-vis de la disparition d'un proche ou d'un maître.
Oui, bien sûr. Pourquoi ?
Moi, je crois pas. Parce qu'on...
On peut avoir de la tristesse, hein. Si, quand même, parce que cette personne n'est plus là, ça peut générer quand même une certaine forme de tristesse, mais pas une dépression.
Oui, d'accord.
Voilà. Mais une tristesse, je pense, c'est humain, hein, d'avoir un peu de tristesse, de ressentir de la tristesse parce qu'il y a des événements qui font partie de la vie, qui se sont produits. Voilà, on peut ressentir de la tristesse. Après, cette tristesse, on ne va pas y passer 3 ans dessus. Hein, c'est un sentiment, c'est un événement mental qui s'élève dans l'esprit. Hein, une tristesse par rapport à la conventionnalité aussi, hein, que les êtres meurent et que ça c'est dommage que cette personne ne soit plus là, par exemple. Hein. C'est pas forcément un attachement non plus. Ça peut, il y a une souffrance quand il y a un attachement, mais la tristesse, c'est pas forcément un attachement. C'est une tristesse par rapport à la, voilà, c'est la vie, quoi. Oui. Mais faut pas non plus s'y attarder. Et je me souviens, j'ai eu la chance, d'être à Tarpatcheling quand Lama Yeshe, donc notre maître, est décédé. Et à ce moment, il est décédé en Californie. Et la personne qui nous a, le maître qui nous a informé de ça, c'était Geshe Rabten, un grand maître aussi de la tradition bouddhiste tibétaine. Et il nous a dit, vous pouvez être triste un petit moment, mais pas trop longtemps. C'est juste quelque chose de naturel qui vient de se passer. Et voilà, quoi. Donc, voilà, ne soyez pas trop affectés. Mais on peut ressentir, bien sûr, une tristesse. Je pense qu'il en avait ressenti une aussi, parce que c'était un de ses disciples, hein, Lama Yeshe. Donc, forcément. Mmh.
Merci, Christian. Mmh.
Ça ne nie pas, ça n'a rien à voir avec l'existence véritable. Même si on a réalisé que les choses n'existaient pas véritablement, on peut quand même ressentir une certaine forme de tristesse. Sinon, il n'y aurait pas de compassion, il n'y aurait pas de bodhicitta, il n'y aurait plus rien, quoi. Voilà. Ces choses-là, elles apparaissent, hein, en fonction de causes et de conditions. Oui. Attends, le micro. Dernière question, après on fait une pause, parce que ma tasse est vide.
Ouais. Non, je voulais dire, je pense que le sentiment de tristesse, ça reste culturel, parce qu'il y a des ethnies sur la planète Terre qui ressentent la joie, pas la tristesse.
Exactement.
Hein. Merci. Mmh.
C'est quelque chose de purement culturel, de purement conventionnel, bien sûr. Dicté par des coutumes aussi, et des événements. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci. On se retrouve dans un quart d'heure, à 16h25.